Merci. Bonjour à chacun et à chacune. En ce jour, bienvenue à ceux qui peut-être nous rejoignent, qui sont de passage, des amis, des visiteurs. Le Seigneur tisse à travers ces différentes églises locales, à travers les œuvres, Seigneur, qu'il a suscité. Il tisse aussi des connexions. Il y a des connexions dans nos vies, c'est toujours quelque chose qui me touche. On ne peut pas connaître tout le monde, et j'en profite pour demander pardon, parce que je ne pense pas vouloir offenser, mais parfois on ne voit pas tout le monde, on ne reconnaît pas tout le monde, alors qu'on a donné le prénom, et puis la fois suivante, on se gratte un petit peu la tête. Je vous demande de faire grâce. Hein. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas connaître absolument tout le monde en détail. Hein. J'ai souvent cette image, je vais partager ici. L'église est aussi un peu la Jérusalem céleste dans laquelle nous sommes invités à vivre. Il y a des murailles de protection. J'ai parlé de séparation la dernière fois. Je vais y revenir un peu. Mais dans un mur, vous savez qu'on a un peu chacun ses styles d'image. Jean-Luc, vous avez encore parlé des arbres. Moi, c'est vrai que j'ai un peu tendance à parler de construction. Dans un mur, chaque pierre est en contact immédiat avec 4 ou 5 maximum pierres. Contact immédiat dans un mur. Et pourtant, il y a plein d'autres pierres dans le mur, qui, par proximité successive, sont toutes reliées, c'est bien vrai. Hein, nous sommes des pierres vivantes, et c'est bien le même esprit qui a fait de nous des enfants de Dieu. Hein, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça c'est incontestable, et l'Église, c'est cet ensemble. Mais on a, dans la vie, des connexions avec particulières, privilégiées, avec quelques-uns. Il faut le reconnaître, c'est ainsi. Et c'est bien ainsi. Le Seigneur, lui, il voit la totalité, il sait comment ça se passe. Ce matin, nous avons été, je trouve, alors on est toujours bénis quand on se réunit ici, hein, je le crois, mais des fois, bon, c'était plus ou moins lourd, et ce matin, je sentais vraiment la présence de Dieu par aussi des choix de chants particulièrement, je trouve, riches dans les textes qui proclame notre foi et qui honore Jésus-Christ, qui honore notre Père. C'est à lui que nous rendons la gloire. Et ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on perde ça. Il y a tellement de production, un peu, on va dire, musicale. Il y a tout un tas de choses. Et je crois que c'est important que l'équipe de louange a ça à cœur, de choisir des chants qui font sens, qui sont valides. Et je bénis le Seigneur qu'il y a des talents, je ne vais pas tout citer, mais je sais, j'ai pu partager avec certains. Serge, on a des échanges parfois, je ne sais pas s'il est là ce matin, des fois un peu rudes, mais il y a des chants, vous voyez, ce chant sur le chemin, la vérité et la vie. C'est des chants, c'est clair. Il n'y a pas besoin de raisonner. On sent qu'il y a une onction. Pourquoi ? Parce que ces chants nous amènent la parole de Dieu, quoi. Il n'y a pas de... Alors après, il y a un cœur qui est donné ça, c'est ce qu'on appelle l'onction. Moi, je définis pas toutes les choses, mais il y a des choses qu'on sait, parce qu'on les sait, parce qu'on les sent, parce que c'est là, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais parce que un culte, ça se vit, c'est pas... voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé des anciens sentiers et parlé du brouhaha de ce monde, de l'offre spirituelle mondialisée, je voudrais résumer un petit peu, qui est extrêmement abondante. Et je dirais, à la hauteur, humainement parlant, de la détresse qui est dans ce monde, de la confusion qui règne, etc. Et face à ça, l'homme a des solutions. Enfin, il en propose du moins. Elles sont nombreuses, diversifiées, parce qu'aujourd'hui, c'est comme dans le marketing, il faut chacun sa produit, les voitures sont extrêmement différenciées, donc chacun peut trouver son offre, toi il te faut ça, etc. Et c'est personnalisé, il y a tout un tas de choses. Tout ça laisse beaucoup dans une grande amertume, une grande solitude au moins, souvent de grandes déconvenues, qui plus est, après avoir tout essayé, eh bien, souvent ça conduit à des puits de dépression, de misère, mais il n'y a toujours pas d'issue. Il y a une grande confusion aussi au niveau religieux, hein, je l'ai dit, et nous savons, alors peut-être certains qui viennent pour la première fois, qui cherchent, ils disent, mais il se prend pour qui celui-là Nous savons que nous avons la vérité. Que Jésus-Christ, plus exactement, est la vérité. Et la vérité révélée. Nous le savons. Alors, j'allais dire, ça pourrait être difficile à porter et à exprimer dans le fond. Et c'est vrai qu'il y a deux risques pour les chrétiens. Et on le voit s'exprimer dans le monde religieux, protestant, évangélique. Il y a deux tentations, il me semble, aujourd'hui. La tentation de la domination, ce que j'appelle la tentation de christianiser le monde. Nous avons la vérité, donc on vous a apporté, et puis on va vous montrer comment diriger le monde. C'est une tentation. Une autre tentation, c'est la recherche de l'unité, de l'ouverture à tout prix. J'en parlerai tout à l'heure, ce n'est pas nouveau. Lorsque Sennachérib a assiégé Jérusalem au temps d'Ézéchias, il a amené cette confusion concernant les religions en disant, mais les religions, j'en ai vu d'autres, j'ai vaincu d'autres pays où il y avait des religions, tout ça, il mettait tout dans le même sac, y compris, et j'y reviendrai, la religion du peuple hébreu qui avait le Dieu véritable et le Dieu vivant et vrai. Donc deux tentations, la tentation de la domination, la tentation de l'acceptation, de la recherche de l'unité, parce qu'on veut être ensemble, on veut être à tout prix, alors on est prêt à des compromis. Et ça, c'est tous les besoins de l'âme qui veut être sécurisée, qui veut être au chaud, etc., etc. Face à cela, j'ai posé la dernière fois la nécessité pour un chrétien, la nécessité plus exactement le fait. Si vraiment un cœur est converti au Seigneur, ça amène dans le cœur une séparation d'avec le monde. J'en ai souligné quelques aspects, des choses qu'on a à faire et des choses qui sont. Le Seigneur nous rappelle, si vous êtes à Christ, eh bien, fuyez l'impudicité, ne participez pas à la vie mondaine, je ne reprends pas tout ça. Usez du monde comme n'en usant pas, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'aimez point le monde, n'aimez point l'esprit du monde, même si Dieu a tant aimé le monde, il a aimé les personnes et nous avons aimé les personnes. Et si nous sommes à Christ, je le rappelais, je le donnais à une de nos sœurs qui a été baptisée, celui qui aime Dieu aime nécessairement celui qui est né de Dieu. Notre chair, c'est pas notre chair qui fait ça. Notre chair, elle est jalouse, elle est orgueilleuse, elle est tout ce qu'on voudra. Mais si l'Esprit de Dieu habite en nous, si nous avons Christ, nous avons la vie, alors nous aimons, même quand c'est difficile, nous aimons nos frères, nous aimons celui qui est né de Dieu. Amen. Amen. Alors, je concluais mon message sur la séparation, parce que faire un message sur la séparation, c'est pas très excitant, on dirait, un peu lourd. Dieu nous amène à une séparation, non pas pour se séparer ou pour s'isoler ou pour se replier. Il permet cette séparation, il cherche à nous mettre à part pour que nous puissions nous consacrer à lui. Et aujourd'hui, j'aborderai ce sujet de la consécration. Être séparé pour se consacrer. Ce matin, dans les prières, il y a eu souvent ce terme de reconnaissance. Et je crois que c'est le premier aspect. La consécration, c'est une réponse de l'homme au don de Dieu. Dieu nous a parlé, Dieu s'est révélé à nous, Il a déchiré le voile, il nous a montré tout un tas de choses. Nous avons compris notre sens de la vie sur cette terre, nous avons compris la chute, nous avons compris que ce monde est destiné à périr par le feu, nous avons compris qu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres, nous avons compris que le Seigneur Jésus reviendra. Nous avons compris que nous sommes sauvés, nous savons, nous avons saisi ce salut, nous dont la seule espérance a été de saisir cette espérance et de tenir ferme. Maintenant, quelle réponse à ce Dieu qui nous a sauvés? La consécration, c'est d'abord la réponse d'un cœur qui a été circoncis. C'est une réponse au don de la grâce de Dieu dont nous prenons conscience. Ce n'est pas vous, ça a été dit encore ce matin, qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous a mis à part dès le sein de notre mère. Je rappelle le psaume 39. « Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés quand, lorsque j'étais formé dans le secret. Ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre, tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. » Les veux-je compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Suis-je réveillé, je suis encore là avec toi. C'est Dieu qui nous a choisis. Et ça, on pourrait, et on peut, et je vous invite, et je nous invite, à repasser cela dans nos cœurs. Je le disais dans ma prière ce matin, ça me touche toujours. Je ne m'habitue pas à cela. Dieu s'est révélé à nos cœurs. Ce passage, il est merveilleux. Me réjouis, il y a beaucoup de naissances dans l'Église. Tout à l'heure, nous bénirons encore un enfant. Il y a beaucoup de naissances, il y a beaucoup de naissances à venir. Alléluia! 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 Ça, c'est aussi la croissance interne de l'Église. Bien la croissance externe, la croissance interne de l'Église. Et ça réjouit parce que si c'est des enfants qui naissent dans des foyers chrétiens qui ont donné leur vie à Christ, alléluia, ils seront enseignés, les parents, enseignés dans les voies de Dieu. Voilà, enseignés dans les voies de Dieu, ça leur évitera bien des désastres. Ils auront à découvrir, comme Jean-Luc le rappelait tout à l'heure, qu'ils sont perdus. Parce que leur nature est déchue, parce que depuis la chute c'est comme ça. Mais le Sauveur est là et ils seront conduits très tôt, c'est mon vœu ce matin, vers le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc la consécration, c'est la réponse d'un cœur circoncis. C'est la réponse d'un cœur circoncis qui ne sait comment exprimer sa reconnaissance et qui vient à son Sauveur et lui dit « Je te donne tout ». C'est d'abord ça. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions morts séparés de lui. Il est intervenu. C'est lui qui est intervenu le premier. Et nous avons une réponse à apporter. Il nous a parlé. Il nous a choisis. Il nous a aimés. Il nous a sauvés. Quelle réponse lui apportons-nous? Nous avons une réponse à apporter. Et la consécration, c'est le mouvement d'un cœur qui dit « J'ai été sauvé, Seigneur. Je viens te donner. » C'est un don volontaire et non une obligation ou un joug. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, va dire Jésus. Nous sommes invités à la même chose. Le don de notre vie n'a pas la même signification que le don que Jésus-Christ a fait, mais lui, il est mort et nous sommes au bénéfice. Il a payé, il a été abandonné de Dieu pour que nous sachions que nous ne serons jamais abandonnés. Mais nous sommes invités aussi à donner. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. L'amour de Christ nous presse dans 2 Corinthiens 15, car la charité de Christ nous presse, étant persuadé que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est un don volontaire et non donc une obligation. Est-ce que nos cœurs ont été suffisamment touchés pour qu'il y ait cet élan et dire, Seigneur, je te donne. Je te donne d'un cœur joyeux. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas où tu vas me conduire. Heureusement, on ne sait pas au début par où il va nous faire passer. Heureusement, je recevais de mon petit-fils, enfin je pense que c'est le papa ou la maman qui ont mis « Ne t'inquiète pas du lendemain, Dieu prendra soin de lui-même. » Oui, heureusement, hein. Alors j'avais envie de répondre, ben non, je me soucie pour aujourd'hui, pas pour demain. Ça suffit pour aujourd'hui. Ça suffit. C'est assez pour aujourd'hui. Hein? Un don volontaire et non une obligation. Pour développer un peu ce thème-là, je vous invite à lire, je vais lire deux passages dans Chronique, des passages un petit peu longs, mais on a le temps. Dans 1 Chronique, d'abord au chapitre 29. 1 Chronique au chapitre 29. On va lire des versets 1 à 18. Ouh, ça ne doit pas être tout à fait ça, mais... Si. 1 Chronique 29. Je ne vous situe pas le contexte, vous allez le comprendre avec le texte lui-même. Hein. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel ? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10000 darics, 10000 talents d'argent, 18000 talents d'airain et 100000 talents de fer. Ça impressionne le constructeur, ces quantités de matériaux. Ceux qui possédaient des pierres et les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jehiel, le Guershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. » À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car... Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontairement dans la droiture de mon cœur et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. David avait eu à cœur de bâtir la maison de l'Éternel et l'Éternel le lui a refusé en disant « Tu as été un homme de sang, tu as conduit beaucoup de guerres, ce n'est pas toi, c'est ton fils. » Ça s'appelle la mort à soi-même. David, qui avait servi, qui a supporté des épreuves, les conséquences aussi, c'est vrai, de ses péchés, mais beaucoup d'épreuves, qui a dû nous rappeler, des fois, il faut patienter un peu, il a patienté beaucoup. Et puis, de tout son cœur, on ne peut pas en douter, il veut construire la maison de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit non. Non, car tu as été un homme de sang et ce sera ton fils. Pas facile. Mais David reste les yeux fixés sur son maître. Il fera les préparatifs. C'est pas lui qui construira. Il fera les préparatifs. Il se met au travail pour que l'appel de l'autre puisse être utile à l'œuvre de Dieu et que la volonté s'accomplisse. David est un homme consacré. Son sort s'efface devant le service de Dieu. Il fait de tout son cœur. De plus, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées dans le cadre de ma responsabilité, de mon ministère, et c'était en tant que roi, il avait été demandé. Mais il donne de lui-même aussi. Ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre. Ce don volontaire est vraiment pour plaire à Dieu. C'est pas pour se montrer. David n'a rien à démontrer. N'a plus rien à démontrer. Il est roi, affermi. Il est au bout d'un règne qui a été glorieux à bien des égards. Ce don est volontaire pour plaire à Dieu en réponse à son salut. Versets 14 et 15, je les rappelle, « Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement ?» Il reconnaît que même offrir quelque chose à Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Et il y a vraiment une pureté. Il a dû s'interroger, est-ce que j'ai le droit ? Il a, quelle crainte de Dieu est dans le cœur de David ? Quelle crainte de Dieu même pour lui offrir quelque chose ? C'est comme si il se méfiait encore de son cœur. Il faut dire que son cœur lui a joué tellement de tours. Et notre cœur nous joue tellement de tours. Notre âme nous joue tellement de tours. Mais il va, il avance. Et de tout son cœur, c'est un don volontaire. C'est un don volontaire d'un cœur bien disposé. Parce qu'on peut faire un don volontaire, mais encore avec peut-être des calculs, avec une recherche de je ne sais quoi. Non, d'un cœur bien disposé. Et cela ne trompe pas le peuple. Donc, au verset 9, il dit « Et le peuple se réjouit des dons volontaires, car ils faisaient de tout cœur leurs offrandes volontaires à l'Éternel. » Et le roi David en eut aussi une grande joie. Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Si c'est de tout notre cœur, et ça, c'est Dieu seul qui sonde nos cœurs. Qu'est-ce qui nous motive ? Pourquoi faisons-nous les choses ? L'homme ne peut pas juger de cela. Mais laissons-nous sonder par le Seigneur des choses qui paraissent bonnes, mais quelles sont nos motivations ? Peut-être ça arrive. Enfin, moi, je ne sais pas si ça vous arrive, ça arrive. On fait des choses de tout notre cœur et puis les choses ne se passent pas. Et le Seigneur, si on accepte que le Seigneur sonde nos cœurs, nos motivations, le cœur de l'homme est tortueux. Je ne dis pas pour condamner, pour qu'on sache combien on a besoin que le Seigneur vienne éclairer en détail les motivations et accepter. Ne soyons pas surpris de ce qu'on va découvrir. Ne soyons pas écrasés de ce qu'on va découvrir. Mais laissons-nous purifier dans nos motivations. À travers ce passage, je voudrais que nous notions aussi qu'un esprit de consécration dans l'humilité, dans une véritable humilité, est contagieux. David est un roi affermi, pour autant il ne possède pas pour lui-même, il est le modèle. David est avant tout un modèle pour le peuple. Et lui va faire ce que Dieu lui demande, simplement. Et après seulement, il aura comme une sorte d'autorité pour poser une question. Y en a-t-il qui veulent donner de tout leur cœur à l'Éternel ? Il n'impose pas, je pense, il n'y a pas de, de joug. Il n'utilise pas son pouvoir pour... Vous voyez, il y a des questions où on se demande quel genre de réponse on peut donner autre que oui, voilà. Non, il n'utilise pas ça. Il a mis en œuvre, il a mis en pratique ce don volontaire, il pose la question. Alors, il nous est dit, les chefs des familles, les chefs des milliers, les chefs de centaines, sont touchés aussi par l'exemple. Et ils vont eux aussi donner. Et cela va toucher le peuple, tout le peuple. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu sait ces choses, sait s'il y a vérité, s'il y a authenticité. Verset 17, il est dit, « Et je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu prends plaisir à la droiture. C'est dans la droiture de mon cœur que j'ai volontairement offert toutes ces choses. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple, qui se trouve ici, t'offrir volontairement ses dons. » Donc la consécration, c'est un don volontaire. Dieu ne va pas nous mettre la pression là-dessus. La reconnaissance d'un cœur qui saisit l'immense grâce du salut, qui saisit l'ampleur des choses et qui s'approche, qui au fur et à mesure qu'il s'approche, laisse purifier ses motivations. Un don volontaire d'un cœur bien disposé. La consécration, c'est encore l'abandon dans la liberté de sa volonté propre. Je vous invite à lire Deutéronome, dans Deutéronome 15. Les versets 12 à 18. C'est parmi les lois hein, de l'Ancien Testament. Hein, c'est plus d'actualité, mais ça nous parle aujourd'hui encore. Enfin, c'est plus d'actualité. Si là où l'esclavage est encore pratiqué, au moins ces choses étaient faites, ce serait un grand progrès. Je lis donc Deutéronome 15, versets 12 à 18. « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide, tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton aire, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, il sera pour toujours ton esclave. » Dieu offre le salut gratuitement. La consécration, la réponse, libre, libre, une réponse libre, reconnaissante, de tout cœur, sans aucune pression, sans aucune obligation, non pas un sens du devoir, une réponse libre d'un cœur qui sait qu'il est aimé et qui veut et qui risque l'amour à son tour, en retour, libre, libre. Dieu ne nous impose rien. Dieu ne nous impose rien. Aucune séduction, aucun marchandage. L'abandon de sa propre volonté est une décision d'un homme ou d'une femme qui sait qui l'a délivré du péché et de l'esclavage, qui va avec, l'esclavage qui va avec le péché, et qui cette fois-ci, avec une conscience purifiée, nous l'avons dit tout à l'heure, en est bonne, c'est-à-dire en état de marche, en bon état de fonctionnement, décide. Nous avons une décision à prendre. Personne ne la prendra pour nous. Il y a là un cœur à cœur avec Dieu, appris, dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous y voyons clair, si nous avons accepté la séparation, si nous nous sommes séparés de la confusion, du brouhaha, alors cette chose va se mettre en place avec notre Dieu. Cette chose va se mettre en place avec notre Dieu. Et nous allons pouvoir lui dire, ben, Seigneur, me voici. Je te donne librement. Nous avons à veiller à cela. Cela, je me prêche à moi. Les traces de nos vies religieuses, de nos attachements, de nos philosophies sont tellement fortes que nous pouvons encore faire des choses pour Dieu avec un joug, quelque chose de pesant. Refusons cela. Refusons cela. Je parlerai une autre fois de l'autorité, de la soumission, de l'obéissance. Mais ça ne peut pas être par un joug. Ça peut être que d'un cœur libéré et qui donne de tout son cœur. L'abandon dans la liberté de sa volonté propre, c'est oui, passer d'une obéissance à une autre. Romains 6, les versets 16 à 18, « Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. » C'est-à-dire, si on relit la phrase autrement, nous serons de toute façon esclaves au sens au service de quelqu'un. Nous aurons toujours un maître. La question est de changer de maître. Et si nous avons changé de maître, alors nous devenons esclaves de Christ, esclaves de l'obéissance, si je lis bien la phrase, mais pour la justice. Nous avons dit, oui, j'aime ce maître qui m'a racheté. Alors, j'accepte de porter sur moi une marque de cette appartenance. Je crois que le Seigneur sait. C'est une marque, le poinçon, il ne s'enlève pas. Nous serons marqués à vie. Nous serons marqués, c'est-à-dire que, quelque part, nous témoignerons que nous étions perdus, que nous étions esclaves du péché et que nous avons été rachetés. Nous ne cachons pas que nous avons été esclaves. Mais en même temps, présentant cette marque qui pourrait paraître infamante, nous proclamons la puissance, la grâce, l'amour de celui qui nous a rachetés. Alors, ça met un cœur humble, et alors, le corps des rachetés peut se constituer avec les poinçonnés. Ce sera jamais forcé. 10 lépreux ont été guéris. Un seul est venu dire sa reconnaissance. J'étais lépreux, j'étais marqué par le péché. Tu m'as guéri et je reconnais, Seigneur, c'est toi. C'est toi, un seul. Les autres n'ont-ils pas été guéris, nous dit la parole ? Ils ont été guéris. Ils ont été rachetés. L'œuvre de Christ, elle est là. Je parlerai peut-être en un autre temps de la servitude de l'esclave à l'obéissance des fils et des filles. Je voudrais poursuivre encore un peu avec les effets, les conséquences d'une vie consacrée à Dieu. Et je vais prendre un autre passage, cette fois-ci dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, je vais lire un passage encore un peu long, mais parce que je ne peux pas lire 3 ou 4 chapitres, non, pas le temps. Mais je vous invite vraiment à lire ces chapitres sur le règne d'Ézéchias. Alors, il est dans plusieurs, il est dans 2 Rois aussi, mais dans 2 Chroniques, en tout cas, il est à partir du chapitre 29 jusqu'au chapitre 32. Ézéchias, il nous est dit au début de son règne, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme avait fait David son père. Si vous avez lu le livre des Rois et les livres des Chroniques, je vous invite à le faire. Vous verrez que parmi les rois d'Israël, et parmi les rois de Juda, a fortiori, encore moins parmi les rois d'Israël, il est très peu de rois dont il est dit cela. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme avait fait David son père. On entend plutôt souvent, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel, plus encore que celui qui l'a précédé. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme avait fait David son père, David la référence. Même Salomon, vous le savez, a dérivé. Et Ézéchias, c'est un roi qui va restaurer les choses. Ézéchias remet de l'ordre dans le service du temple. Alors, nous sommes sous l'ancienne alliance, hein, ne prenons pas tout à la lettre, mais il y a beaucoup de choses qui doivent nous inspirer quand même. Il remet de l'ordre dans le service du temple. Les lévites et les sacrificateurs entrent de nouveau au service, selon la volonté de Dieu, et non pas selon des traditions et l'idolâtrie qui était rentrée. Ézéchias reprend les peuples de Chroniques verset 11, par exemple, il dit, je vous fais un court résumé, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, la consécration c'est ça, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Donc le ménage se fait dans le temple, j'allais dire dans l'église, dans le temple, sorti des impuretés, sacrifice d'expiation, et dans cet ordre, hein, on commence par virer les impuretés, ensuite il y a les sacrifices d'expiation pour purifier, puis l'holocauste, qui est une sorte de consécration, puisque vous savez, dans l'holocauste, tout est brûlé, il ne reste rien, ça parle bien de la consécration, je te donne tout, fais ce que tu veux. Hein. Puis l'action de grâce, et enfin le culte est rétabli, Dieu souffle sur son peuple, il y a, il faut le dire, un réveil. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Il y a vraiment une prise de position. Ézéchias, ce roi, relit la parole. Au passage, c'est encore comme ça. Hein, il relit la parole, ce dont il dispose. Je rappelle que Ézéchias, il dispose du Pentateuque. Hein, au moins, peut-être une partie des chroniques, j'en sais rien, je ne suis pas assez branché là-dessus. Mais, peut-être la transmission orale des prophètes, mais il est loin d'avoir tout ce que nous avons. Mais il relit, il est touché, et il voit tout simplement qu'ils se sont gravement écartés depuis des générations de ce que Dieu demande. Et de nouveau, et je crois que la consécration c'est ça, de nouveau, il dit « Seigneur, je veux revenir, je veux revenir ». Il se repositionne, lui le responsable de ce peuple. Et il remet les choses en ordre. Il fait sa part et Dieu va bénir. Dieu va se retrouver. Dieu va de nouveau bénir ce peuple. Je passe tous les détails, mais vous savez, il y a un passage qui me marque beaucoup là-dedans. Il y avait tout un rituel ordonné par Dieu pour, par exemple, la Pâque. Il y avait tout un rituel de purification, etc. Et dans un mouvement de réveil, comme c'était le cas, comme tout l'équipe sacerdotale de l'Ancien Testament avait longtemps abandonné son poste, tout ça se remet en place, mais il fallait offrir des sacrifices. Je vous rappelle, si vous lisez ces textes, vous vous dites, moi des fois je suis un peu pratique, je me dis, oh là là, mais ça devait être un vrai crématoire permanent, là, une boucherie. Comment étaient stockés les animaux? Parce que le sacrifice brûlait en permanence, il y avait une logistique toute impressionnante, et chacun devait être purifié. Et le peuple est nombreux à venir pour la Pâque, et il n'y a pas assez de lévites pour purifier. Alors, les responsables auraient pu dire, « Bon, c'est pas grave, Dieu, ça va passer. » Non, il y a la crainte de Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Et la chose est soumise à Dieu. « Seigneur, tu vois, tous ne pourront pas être purifiés selon le rite. Seigneur, fais-nous grâce. » Mais ils disent, « Bon, ça va aller, Dieu. » Non, il y a la crainte de Dieu, l'obéissance. Ils viennent à Dieu, l'autorité, ils disent, Seigneur, fais-nous grâce. Repas, comment refuser à ce peuple? Ils s'approchent, leur cœur est sincère. Mais Seigneur, tu as commandé cela, comment va-t-on faire? s'est soumis à Dieu. Et Dieu va agréer. Mais ça a été soumis à Dieu. Dieu va agréer. Alors la bénédiction vient. La bénédiction vient. Et de nouveau, dans ce passage, je ne peux pas vous lire tout, mais de nouveau, les cœurs se mettent à donner leur vie, à donner leur bien. Voilà, un véritable réveil. Il y a une communion. Parce qu'on est revenu à une obéissance simple, à une soumission. On n'a pas tout compris, mais on est dans la crainte de Dieu. Deux enseignements complémentaires de cela. L'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, à un moment, ce roi qui fit comme son père David, à un moment, devant l'invasion, a eu la peur. Le doute est venu dans son cœur et il a accepté de payer un tribut à l'occupant. C'était, on n'a pas à juger, Ézéchias. Le doute est venu, la crainte de l'homme a dominé sur lui et il a payé le tribut. Et il a dû être repris dans son cœur. Et on va voir que plus tard, il va refuser, c'est ça on va le lire, il va refuser de se soumettre. Il va invoquer son Dieu cette fois-ci. Ça c'est un enseignement. Nous pouvons par moments chuter dans le compromis, dans la crainte de l'homme. Il y a toujours un retour possible. Seigneur, Seigneur, j'ai manqué de te faire confiance. J'ai eu la crainte, j'ai eu la peur de l'homme. Il y avait une telle pression, il y avait de telles choses. Et puis quand même, il faut vivre. Et puis j'étais menacé matériellement, financièrement, affectivement. Et Seigneur, j'ai lâché prise, je reconnais. Je n'ai pas lâché prise de la bonne manière. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Nous sommes si fragiles et si faibles. Ou parfois la présomption, quand ça va bien, revient si facilement. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais s'il est tombé, le Seigneur relève. Deuxième enseignement. La consécration et la séparation sans compromis déclenchent des combats importants. Et là, nous allons lire ensemble, dans 2 Chroniques 32, les versets 1 à 23. C'est une lecture un peu longue, mais je prends ce temps aujourd'hui. 2 Chroniques 32, qui commence « Après ces choses et ces actes de fidélité ». Donc, « Après ces choses et ces actes de fidélité », c'est tout ce que je viens de vous raconter avant. La remise en ordre de la maison de Dieu, et se réveille. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu, qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ? La parole nous rappelle, ne livrez pas vos perles aux pourceaux aussi. Ézéchias prit courage. Là, ce coup-ci, il a compris son échec de la fois d'avant, lui a servi de leçon. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna ses chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus » qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Tout de suite, un commentaire sur ce passage. L'échec d'Ézéchias, la fois précédente, je crois, lui a servi là. Ce qu'il dit là, fortifiez-vous, ayez du courage, il se prêche à lui-même. Ne craignez point, ne soyez point effrayés, il a vécu cela. Il a vécu cela, mais le Seigneur l'a relevé. Car avec nous et plus, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera. Il ne sait pas comment, mais qui nous aidera. Il y a là une foi qui a été éprouvée. Ézéchias a été gardé dans la foi par la puissance de Dieu. Il n'y a rien de changé. C'est la même chose que ce que dit Pierre. Après cela, Sanchérib, c'est pas fini. Roi d'Assyrie envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces. Il les envoya, les hordes de l'ennemi de nos âmes. Il a des puissances, il envoie. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire « Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse ?» Ça, c'est une question qui nous est posée souvent par le monde où nous vivons. Sur quoi repose votre confiance ? Elle ne peut pas reposer que sur des traditions, sur ce que nous avons entendu dire, si nous ne sommes pas nourris nous-mêmes, si elle ne repose sur la parole de Dieu que nous connaissons, que nous saisissons, nous serons embêtés, nous serons vaincus. Ézéchias, ne vous abuse-t-il pas ? Ça ne vous rappelle rien, ça ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Ézéchias, ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie ». N'est-ce pas lui, Ézéchias, écoutez bien, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem ? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Je vais développer ça. Ne savez-vous pas que nous avons fait, moi et mes pères, c'est Sanchérib qui parle, à tous les peuples des autres pays ? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main ? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer mon peuple, son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main ? Quelle provocation ! Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Le séducteur qui accuse de séduction. Car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main ? Quelle démonstration ! Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur, et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Face à cela, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Après ces choses et ces actes de fidélité, il y a un lien posé par l'Écriture entre l'œuvre de restauration spirituelle et l'attaque de l'adversaire. C'est clair et net. C'est un combat entre la vérité et le mensonge. Il y a d'un côté un déploiement de force et des gesticulations. Et la réponse d'Ézéchias, prenez courage, car avec nous, il y a plus qu'avec lui, avec lui un bras de chair, avec nous l'Éternel, il va le démontrer. Notez que cette confiance, puisqu'il est dit que le peuple eut confiance, du peuple repose sur l'exemplarité d'Ézéchias, qui a rétabli un culte non mélangé et qui s'est repenti de ses chutes et de ses faiblesses. Pour autant, l'adversaire poursuit, en mettant volontairement la confusion. Et là, il y a, je reviens à cette notion de l'acceptation de l'unité et de l'ouverture à tout prix. Ce n'est pas nouveau. C'est exactement ce qui se passe ici. Lorsque Sanchérib assiège Jérusalem, ses arguments étaient de dire, dans le fond, j'ai vaincu plein de nations qui avaient des dieux. Et votre Ézéchias, c'est la même chose. Vous avez un dieu. Alors en plus, votre Ézéchias, là, en plus, c'est un intolérant. Parce que il a viré les idoles, qui ne valent pas plus que les autres, certes. Mais enfin, chacun a bien le droit d'avoir les siennes. Donc en plus, c'est un sectaire, votre roi, là. Puisqu'il dit qu'il faut adorer dans un seul lieu. C'est pas Ézéchias qui a dit qu'il fallait adorer dans un seul lieu. C'est l'Éternel. Et c'est à Jérusalem. Aujourd'hui, nous savons que c'est pas à Jérusalem, ni à Samarie, mais en esprit, en vérité. Mais il y a là, dans cette confusion, que toutes les religions se valent, et finalement ne valent pas grand-chose, mais que c'est la force, la puissance et la richesse qui finalement doivent être recherchées, voilà ce que dit Sanchérib à des gens qui crèvent de faim. C'est exprimé un peu de manière, non pas vulgaire, mais un peu familière. Mais enfin, c'est ça. Je vous rappelle qu'un autre texte dit que le peuple était dans une telle détresse qu'ils mangeaient leurs excréments, dévoraient les enfants les uns des autres. Un peuple qui est dans une telle souffrance, une telle misère, ça peut nous parler de détresse. Si quelqu'un vient dire, mais attends, ta religion, c'est une religion comme les autres. Vous avez vos traditions, vos trucs. Si on n'est pas fondé sur ce qui est notre Dieu, comment va-t-on résister? Comment va-t-on résister? On est de chair. Et le bras de chair, il peut avoir un écho si on n'est pas fondé en celui qui nous a rachetés. Au verset 19, cette confusion est résumée. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Et là, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi. Cette confusion. Vous avez un dieu, mais il y a des dieux. Vous êtes des religieux parmi les religieux, frères et sœurs. Ce n'est pas nos rites. Ce n'est pas toutes nos manifestations extérieures. Ce n'est pas notre gesticulation. C'est notre cœur, l'authenticité, notre relation fondée sur la vérité qui nous rendra forts et qui nous permettra de résister. La consécration, et c'était donc le dernier point, une authentique consécration, acceptant certaines difficultés et douleurs qui vont avec, provoque, parce que l'ennemi ne s'y trompe pas non plus, si un cœur est vraiment donné au Seigneur. Il ne faut pas croire que les combats vont cesser pour autant. Ézéchias, nous pourrions lire la suite, je ne ferai pas ce matin. Après tous ces combats, après ces victoires, après ces chutes, ces relèvements, ces affermissements suite aux chutes et aux relèvements, va encore chuter par la vanité. Cela doit nous enseigner et nous donner de persévérer. Alors peut-être ce que j'ai évoqué ce matin paraît impossible, excessif, trop exigeant, et pourtant c'est bien à cela que Dieu nous appelle à tout lui abandonner. L'inquiétude peut venir lorsque nos pensées sont mélangées, lorsque des raisonnements du monde, justement, viennent s'opposer à la parole de Dieu. Alors, je vous invite simplement à continuer de saisir toutes ces réalités, tout ce que nous avons reçu ce matin encore, à travers ces chants, à travers les textes que nous avons proposés, à travers les prières, la réalité, ce si grand salut, et qu'on puisse apporter cette réponse à Dieu, oui, en connaissance de cause et en reconnaissance. Seigneur, je te donne tout et j'invite l'équipe de louanges que nous prenions ce chant. Je vais prier et puis on va prendre ce chant pour laisser descendre tout cela dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous avons proclamé ce matin ton si grand salut. Ton œuvre, tu nous as rachetés, tu es la rançon, tu as payé la rançon. Nous t'appartenons, Seigneur. Seigneur, nous recevons cette grâce. Nous recevons ce don de ta grâce, Seigneur. Nous recevons ce si grand salut. Nous l'acceptons, Seigneur. Et en retour, Seigneur, nous te disons notre reconnaissance. En retour, ce matin, devant mes frères, Seigneur, tout à nouveau, je te dis, je te donne tout. Je veux les inviter, Seigneur, mais Seigneur, que chacun, dans la liberté de son cœur, Seigneur, que tout ce qui pourrait être des jougs, des choses religieuses qui pèsent, qui poussent au don pour plaire, pour payer un prix, pour mériter, que tout cela disparaisse ce matin, Seigneur, et que chacun de ceux qui ont reconnu ce si grand salut puis simplement, s'ils sont prêts, dire Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Fais de moi l'homme, la femme que tu voudras que je sois. Je te donne tout, Seigneur. Amen.